France Culture.
Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Hélène Dorion avec Zoé Sfez.
Bonsoir Hélène Dorion.
Bonsoir Zoé, bonsoir.
Vous êtes poète, romancière et essayiste. Vous êtes une plume que la France connaît, puisque vous êtes l'autrice d'une œuvre déjà extrêmement longue et fertile, assez protéiforme, fondamentalement, on pourrait le dire, poétique, mais traversée par des questions de philosophe, puisque vous êtes formée à la philosophie, comme le temps, la mémoire, l'absence, l'identité, et puis au cœur de tout, sans doute, cette question du lien, de l'altérité, une esthétique aussi de la fragilité, de la faille, de la grotte, qui questionne sans jamais résoudre ces questions qui sont fondamentales pour vous, pour nous. Comment est-ce qu'on habite le monde? Comment nous habitons-nous nous-mêmes? Des questions qui s'incarnent, qui se font écho, qui sont posées parfois par la nature et la notion de paysage qui, dans votre œuvre, est omniprésente. Du fleuve Saint-Laurent, qui vous a vu grandir, aux cieux, aux glaces, aux forêts, vos forêts qui donnent leur nom à ce texte qui a fait de vous la première autrice vivante à être au programme du baccalauréat français. C'était un événement considérable, c'était il y a 2 ans. Vous voir entrer, vous, femme vivante, mais québécoise aussi, dans cette rencontre très importante avec des jeunes étudiants français. Alors on peut se réjouir de découvrir un peu mieux cette œuvre dont on n'a pas encore tous les livres en France, ça viendra. Œuvre fertile derrière laquelle on semble parfois reconnaître tantôt une démarche de musicienne, presque de compositrice, puisqu'il y a des leitmotifs comme des accords qui reviennent, parfois de peintre, parfois d'architecte même. Cette œuvre que vous construisez depuis 40 ans et qui se déploie, ou qui se fait écho aussi, sous des formes assez diverses, puisqu'il y a évidemment la poésie. Vos premiers poèmes, ça s'appelait « Intervalle prolongé » suivi de « La chute ». Vous aviez une petite vingtaine d'années, jusqu'à « Mes forêts en France », mais on peut redécouvrir, et ça c'est fondamental, « Un visage appuyé contre le monde » qui était paru en 90 au Québec et qu'on découvre cette année, on a la chance, aux éditions Gallimard depuis 2024. Des essais, des romans, là encore, qu'on va pouvoir redécouvrir. « Pas même le bruit d'un fleuve » paru en France en 2022. Et puis des textes un peu plus hybrides, des correspondances, une œuvre déjà très primée. Même si on pourrait faire une liste extrêmement longue, quelques prix que vous avez reçus. Le prix Athanase David, qui est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en littérature. Le prix Mallarmé, le prix Léopold Senghor, le prix Wallonie-Bruxelles. Vous êtes compagne de l'Ordre des Arts et des Lettres au Québec et vous avez reçu, et ça c'était très important, en France, en 2024, le Grand Prix de Poésie de l'Académie française. Alors dans les masterclass, vous le savez sans doute, vous qui les connaissez ou les écoutez, on essaie de comprendre votre rapport, votre pratique de l'écriture, la manière dont concrètement vous travaillez. Vous êtes déjà, vous, assez généreuse avec vos lecteurs et vos lectrices sur les choses qui vous animent, qui vous accompagnent, qui suscitent chez vous du désir. Mais avant de rentrer un peu dans cette pratique, on a coutume de commencer les masterclass avec cette question fondamentale de la vocation. Est-ce que vous, Hélène Dorion, vous vous êtes raconté que vous aviez cette vocation ?
Non, pas vraiment. Je ne pouvais pas avoir même accès à l'idée d'une telle vocation. Je viens d'un milieu quand même assez modeste. En même temps, mon père était un grand lecteur, mais à un certain moment, je pense qu'il commençait à fonder notre famille et il y a eu une inondation et tous les livres de sa bibliothèque ils sont passés. Et donc, il n'a pas pu refaire, en fait, sa bibliothèque, ce qui fait que je ne suis pas née dans un milieu où il y avait plein de livres, où la bibliothèque était très importante. Donc, je n'avais pas facilement accès, bien qu'il y a eu, par la suite, des bibliothèques municipales. Je suis allée quand même, j'étais scolarisée dans des lieux quand même assez, où les livres, l'éducation était assez importante. Donc là, j'ai eu contact avec les livres, mais le fait de vouloir être écrivaine, en fait, c'est venu presque à mon insu. J'ai commencé par des études de philosophie, vous le mentionniez, et c'est à l'intérieur de mes études de philosophie que j'ai découvert la littérature. Et découvrant la littérature, découvrant le champ qu'elle, j'allais dire, complexifiait et éclairait tout à la fois, là, je suis allée vers la littérature et très rapidement, en lisant des philosophes qui étaient écrivains et des écrivains qui étaient philosophes, j'ai eu envie moi-même de prendre cette matière entre mes mains. J'ai publié un premier livre quand même assez rapidement. Et c'est vraiment au moment où j'ai reçu, je me souviens du moment où j'ai reçu ce livre, où je suis allée chercher les cartons, j'ai ouvert les cartons et j'ai vu ce livre avec mon nom sur la couverture. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais vraiment consacrer ma vie à l'écriture, que ce chemin que j'allais creuser serait celui de toute ma vie. Je l'ai eu comme une intuition, mais ça n'a jamais été un rêve ou une fascination ou même un désir que j'aurais eu.
Vous venez nous dire que c'est par la philosophie que vous êtes rentré dans la littérature. J'ai lu quelque part que vous aviez eu une rencontre avec la poésie à l'oral plutôt, je crois, dans une salle de classe.
Ah oui, oui, tout à fait. C'était, bon là, la scolarité correspond pas forcément. Moi, j'étais en cinquième secondaire, donc la dernière année du secondaire. Et on avait une professeure qui était très fervente et de français. À un certain moment, elle se lève, elle ferme les yeux, elle se met à marcher entre les bureaux. Les yeux fermés, elle récite un poème. Enfin, je ne pouvais même pas dire ce que c'était. J'ai senti qu'elle allait dans un lieu qui était tout autre que celui où moi je vivais, où on vivait quotidiennement. Et en la regardant, en la ressentant, je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'aller dans ce lieu-là. J'ai envie de connaître ce lieu. Et je sais que depuis ce moment-là, je sais que la poésie, c'est un lieu. C'est un lieu qu'on rejoint, c'est un lieu qu'on éclaire, mais plus encore, c'est un lieu qui nous habite toujours déjà et que la poésie nous met en contact avec ce lieu-là directement.
À quel moment vous avez commencé à visiter ce lieu-là dans votre vie? Est-ce que c'est arrivé, est-ce que vous avez tenté dès cette période-là ou c'était plus tard au moment des études de philosophie? Parce que là, je pense quand même à « Pas même le bruit d'un fleuve », votre roman, qui est un roman où la narratrice raconte qu'elle écrit des poèmes en secret. Elle va découvrir que quelqu'un d'autre écrivait des poèmes en secret. Vous, quand est-ce que ça a commencé, cette pratique de ce lieu?
Alors, je pense que cette découverte du lieu poétique a été pour moi un choc, mais un choc d'abord existentiel. Avant d'être dans les livres, la poésie pour moi a donc été quelque chose de très sensible dans mon corps, je l'ai vraiment ressenti profondément. Et par la suite, j'ai un peu oublié. Dans ma famille, on pratiquait plutôt les sports plutôt que d'aller au musée. C'était plutôt ce côté-là de la vie qui était favorisé. Et donc, pendant des années, ça a été un peu mon chemin. Et je pense que mes questions étaient si grandes, si nombreuses, que la philosophie a rapidement été mon champ, disons, d'études, mais aussi d'investigation. J'ai eu envie de connaître, j'avais cette espèce de soif de connaître très vaste, et la philosophie embrassant à la fois l'éthique, la psychologie, les mathématiques, la logique, etc., j'avais cette soif de tout connaître et la philosophie me donnait, m'ouvrait cette porte-là très large. Et c'est vraiment à l'intérieur de la philosophie que j'ai découvert un poète qui s'appelle Jacques Brault, poète québécois, qui est très proche de la philosophie aussi. Il enseignait la philosophie du Moyen-Âge. Et c'était vraiment chez moi, j'ouvre presque par hasard ce livre qui s'appelle « La poésie ce matin ». Et à ce moment-là, là j'ai le choc, mais dans la langue, dans le langage, dans l'écriture. Ce choc qui fait que les mots disaient autre chose que le sens que j'en connaissais. Ils contenaient de l'impénétrable, de l'invisible, de l'indicible, une sorte d'opacité qui en même temps, pour moi, était celle dont je faisais aussi l'expérience dans la vie de tous les jours, parce qu'on pense souvent qu'on va parler à quelqu'un et ça va être très clair, et bon, c'est loin d'être le cas. Et la poésie reflétait aussi cette complexité, cette opacité. Et là, ça a été vraiment le choc du langage poétique, du langage littéraire aussi en général. Là, j'ai su que la littérature était ce chemin intérieur qui me permettait d'aller non seulement à la rencontre de ce que j'ignorais de moi-même, des autres et aussi du monde, et que je pouvais emporter mes questions, toutes les questions qui m'avaient habité pendant les années de mes études de philosophie.
Alors, dans vos études de philosophie, on va y revenir parce qu'ils cheminent quand même toujours avec vous. Ils sont là, Nietzsche, Plotin, les présocratiques, ils apparaissent, ils surgissent dans certains de vos ouvrages, plus ou moins des essais, mais pas que d'ailleurs. Dans La Grotte en est un exemple assez fort. Dans quel état vous étiez quand vous avez écrit ces premières poésies qui sont publiées? Voilà, vous êtes toute jeune en fait, donc effectivement, je comprends ce que vous dites, vous êtes précipité. Vous étiez dans quel état? Comment est-ce que vous avez commencer à mettre en œuvre? Est-ce que c'était sur des carnets? Est-ce que c'était assise quelque part? Comment ça a commencé, cette pratique de la poésie pour vous?
En fait, je suis passée des études de philosophie à ce que nous, on appelle une maîtrise en littérature. Et donc, je suivais des cours, il y avait des ateliers d'écriture durant mes études. Et c'est en dehors de ces ateliers que là, j'ai commencé à prendre un peu les mots comme de l'argile et à voir ce que moi, je pouvais en faire. Donc oui, il y avait des carnets et des premiers poèmes qui se sont construits. Je dirais que mes premiers poèmes, vous l'avez dit, le titre tout à l'heure, « L'intervalle prolongé suivi de la chute requise », qui paraît assez opaque. Il l'était, en fait. Je pense que je rencontrais l'opacité de mon être. Moi, j'ai l'impression qu'on passe toute notre vie à défricher un chemin, d'abord et avant tout vers nous-mêmes. Le fameux « connais-toi toi-même », peut-être que je l'ai pris très au sérieux, mais je pense que c'est vraiment le commencement de se rencontrer dans tout ce que l'on est, dans ses ombres, dans ses percées lumineuses, dans les écueils. Et ce premier livre, pour moi, est un peu comme si j'étais allée marcher dans une forêt très dense, chargée d'ombres que je devais rencontrer. Et c'est comme si j'ai demandé à partir de ce moment-là à l'écriture de défricher avec moi cette forêt intérieure, de créer des percées de lumière, parce que je pense que plus on va loin à l'intérieur de soi, plus on peut aller loin aussi à l'extérieur, dans la rencontre de l'autre, dans la connaissance du monde aussi. Et donc, ces premiers poèmes portent un peu ces ombres, cette ignorance de soi, je dirais. Parce que vous l'avez dit, j'étais dans la vingtaine, donc quel chemin il y avait devant moi. Je savais que j'aimais défricher l'inconnu. Mes cours de philosophie m'avaient appris à aimer l'inconnu. Premier cours de philosophie où je suis allée, je me souviens, j'habitais chez mes parents, je rentre à la maison, ma mère me demande alors comment c'était, et je lui réponds, c'était extraordinaire, je n'ai rien compris. Parce qu'en fait, il y avait tout un champ que j'allais pouvoir connaître. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'être devant ce qu'on peut connaître, c'est ce qui définit le désir, l'élan de l'être, que de dire, voilà, je sais, je connais, j'ai une opinion, j'ai une idée, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, j'aime cette espèce de tâtonnement.
Qui c'était ces philosophes écrivains qui vous ont peut-être éclairé quelque chose et qui continuent aujourd'hui de cheminer avec vous et que vous continuez à invoquer, avec qui vous vous posez toujours des questions?
Alors, tout de suite, Albert Camus, bien sûr. Le mythe de Sisyphe a été pour moi une lecture déterminante, marquante. Par la suite, toute son œuvre. Il y avait bien sûr Jean-Paul Sartre aussi, Simone de Beauvoir, je recule un peu, Nietzsche. Donc, tous ces philosophes. Et ensuite, en vis-à-vis des écrivains qui avaient justement ces questions philosophiques, je pense à l'œuvre d'Hermanès que j'ai lu en entier, jusqu'au Jeu des perles de verre et au Voyage en Orient, le tout dernier. Et pour moi, il n'y avait pas de frontière entre la philosophie et la littérature. Très rapidement, entre la narration, l'émotion et la réflexion, on était vraiment autour de la même table. Et ce sont des philosophes, d'ailleurs, qui posent des questions de manière littéraire aussi.
Alors, vous avez eu d'autres métiers. Vous avez été éditrice, vous avez été professeur, vous avez même fait de la radio. Comment ça a nourri au début quelque chose, la poésie et la littérature, c'était la chose centrale ou c'était une chose qui était à côté dans votre vie au début?
Ah non, ça a toujours été central. À partir du moment où j'ai écrit mon premier livre, j'ai été une écrivaine professeure, une écrivaine éditrice, une écrivaine qui fait de la radio. Mais oui, ça, c'est central. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'image d'un arbre. Le tronc, c'est vraiment l'écriture, c'est vraiment le lien à la littérature. Et je le nourris de différentes manières. En même temps, pour moi, le fait d'avoir été éditrice et aussi écrivaine faisait en sorte que j'entrais dans, si on veut, dans un dialogue avec les auteurs, mais d'une manière aussi que je pouvais connaître, que je pouvais saisir de l'intérieur aussi.
Alors, chez vous, il y a beaucoup de choses qui se font écho, qui reviennent, mais des formes qui changent et surtout des points de vue sur des questions assez similaires qui vont bouger tout au long de votre œuvre, de la construction de cette œuvre. J'utilise pas le mot carrière à dessein, mais l'idée de départ d'un recueil, d'un poème, comment vient l'idée ou le moment où vous savez que vous partez sur quelque chose qui va avoir sa logique propre?
En fait, je suis toujours sur quelque chose. Moi, je dis souvent, être écrivain, c'est vraiment n'avoir aucun repos, mais ne vouloir aucun repos. On ne veut pas se reposer de cette quête qui nous habite, de ce feu que tout nourrit. On parle avec quelqu'un et c'est en train d'être nourri parce que c'est du langage. On va voir une exposition, c'est nourri. On marche dans une forêt, c'est nourri aussi. Donc pour moi, c'est ce champ continu. Et en fait, je me suis pas vraiment rendu compte que, c'est vrai, les livres se succédaient à un rythme assez régulier. C'est à un certain moment où, oui, là, j'ai pris conscience qu'il y avait ce que moi j'appelle une sorte de, disons, de continuité. C'est un peu comme dessiner une figure. Vous avez évoqué tout à l'heure l'architecture, donc la construction d'un livre, mais la construction d'une figure d'un livre à l'autre aussi, parce que je pense qu'un livre est issu du précédent ou d'un précédent, donc d'un livre antérieur, et répond à ça. Par exemple, on évoquait tout à l'heure Mes forêts, en publiant Un visage appuyé contre le monde, qui reprend 4 livres. Je pense que les lectrices et lecteurs pourront voir que ce lien à la nature était déjà présent, que le questionnement philosophique aussi, la question du lien. Donc, il y a les racines, en fait, qui sont là. Et c'est comme si je vis sur une terre que je ne fais que revisiter, mais par des chemins nouveaux, en creusant davantage et en étant irrigué par d'autres chemins aussi. Donc, pour moi, c'est d'inscrire ça dans une continuité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tout à coup, je sais qu'il y a un livre qui va s'écrire? C'est comme une sorte de surgissement. Quelque chose devient de plus en plus présent. Ça peut être un thème, ça peut être une préoccupation, une question, ou ça peut être aussi simplement un début de texte qui surgit, dans le cas d'un poème surtout. Et là, je vais écrire un certain nombre de poèmes. Et à un certain moment, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc, le surgissement devient un dialogue, en fait, avec le texte. Certains livres s'écrivent aussi de manière bien particulière, pas même Le bruit d'un fleuve que vous évoquiez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment à partir d'un fait personnel. Ma mère ayant perdu son fiancé quand elle était très jeune. Et comme elle était décédée au moment où j'ai écrit le livre, j'ai eu envie de me pencher un peu, sur sa mémoire et d'entendre sa souffrance, son chagrin, qu'est-ce qu'elle avait vécu, parce que quand on est enfant, on réduit souvent le rôle de nos parents à n'être que nos parents, et on veut les réduire à ça, c'est suffisant, donc on ne veut pas trop savoir s'ils ont souffert, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc ça a été un point de départ dans la vie, et souvent c'est ça pour moi, c'est vraiment un surgissement dans la vie. Moi, c'est vraiment la vie qui vient me poser une question, et quelque chose pointe et me taraude, et je n'ai pas le choix que d'y faire face. Et c'est comme ça qu'un livre s'impose, que ça va être par exemple un roman plutôt qu'un livre de poésie ou un essai. Donc le chemin, c'est clair et je sais que je suis sur ce chemin-là, bien que les genres, évidemment, ce sont des vases communicants.
On va justement rentrer dans exactement ces questions-là parce qu'elles sont difficiles à décrire, d'autant plus chez vous qui avez une œuvre si riche, si protéiforme. On va prendre des exemples. J'aimerais qu'on prenne justement l'exemple à la fois de ce roman, qui est vraiment un roman, pas même le bruit d'un fleuve, et qu'on parle de Mes forêts, qui est peut-être un des ouvrages que les gens qui sont ici avec nous connaissent peut-être le mieux, puisque c'est celui avec lequel vous êtes entré comme ça de manière tonitruante, dans l'idée du grand public en tout cas. Pas même le bruit d'un fleuve, c'est donc un roman. Un roman qui, j'imagine, a nécessité aussi de la documentation. Pas même le bruit d'un fleuve, à quel moment vous avez su que ce serait un roman? Et est-ce que, a fortiori ou a contrario, il y a des éléments de ce sujet de Pas même le bruit d'un fleuve, de votre mère, qui sont présents sous d'autres formes, à d'autres endroits de votre œuvre?
Ah, ça, très certainement. Moi, j'aime bien, je dis souvent, moi, j'ai pas peur de la répétition. Parce que on est des êtres de répétition aussi. Si je raconte mon enfance aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Dans 3 ans ou 3 semaines, je vais vous raconter une autre histoire, mais il va y avoir des éléments qui vont revenir. Donc, pour moi, on a un certain nombre aussi d'éléments dans nos vies qui sont des pointes et qui vont de toute façon surgir à l'horizon. Et je trouve ça important de ne pas dire « Ah oui, ça, j'en ai quand même, je l'ai déjà évoqué. » Non, si je l'évoque dans un autre livre, je vais l'évoquer différemment et moi-même étant différente, donc ça va être autre chose, oui.
Bien sûr, et vous avez des éléments d'ailleurs qui reviennent oui. sans cesse, la faille, le relief, l'absence, mm-hmm. le lien, qui reviennent comme des espèces voilà, d'accords presque tout au long de votre œuvre. Pas même le bruit d'un fleuve. C'est un roman dans le sens où, même si la première partie, d'ailleurs, l'ouverture de ce roman fait écho à plusieurs poèmes, y compris dans Mes forêts, vous parlez évidemment d'un arbre, des racines de l'arbre qui poussent en dessous, et de la question du lien. Et il y a déjà cette figure de l'arbre qui est cruciale. C'est un roman qui voyage à travers différentes périodes. On est en 49, on est à des temps beaucoup plus contemporains et on parle d'un sujet qui est un sujet tout à fait réel, qui est ce naufrage qu'on connaît beaucoup moins, qui est un naufrage qui a lieu à quelques années du Titanic et où il y a presque à quelques mois du Titanic, vous avez tout à fait raison, qui fait autant de victimes, il y a toute une idée avec l'équipage, et qui est sur ce fameux fleuve Saint-Laurent. Saint-Laurent, ce fleuve au bord duquel vous avez grandi. C'est un roman qui ne dit pas s'il est autobiographique. À quel endroit vous avez situé justement cette notion de romanesque? Où est-ce que vous avez trouvé la limite?
En fait, il est très partiellement autobiographique. Il est pour, j'allais dire, certains jalons. Alors, le motif de départ, c'est effectivement ma mère qui avait perdu son fiancé. Son voilier avait été percuté par un pétrolier. À partir de cette image, à partir de là, le personnage de Simone n'est plus ma mère parce que ma mère était décédée. Donc, c'est un élément que je n'avais pas questionné. Je lui ai jamais parlé, bien que ce fiancé était comme un fantôme, en fait, dans la famille. Donc, il était présent, mais je voulais en tout cas vraiment pas lui en parler, bien qu'il était là. À partir du moment où ma mère est décédée, qu'est-ce qui peut répondre sinon la fiction? Et je pense que l'histoire qu'on invente est aussi l'histoire vraie. C'est comme si j'allais moi-même, comme narratrice, sur le fleuve, et je décris le fleuve dans sa réalité, c'est-à-dire un fleuve très difficile à naviguer, avec beaucoup d'écueils, avec des brouillards dans les saisons, printemps. Et donc, je naviguais moi-même à l'aveugle. C'est un roman que j'ai écrit alors que j'étais à Banff, donc dans les Rocheuses canadiennes. Et donc, pas du tout au bord du fleuve. J'avais mis simplement un plan parce que je suis pas très douée en géographie. Donc, je m'étais mis un plan avec des points de repère. Et j'avais des notes depuis 2 ou 3 ans, donc des carnets de notes. Mais j'ai décidé, en arrivant là-bas, j'étais en résidence d'écriture, de laisser tous mes carnets de côté et de reprendre l'histoire, mais à partir du processus que moi, j'avais intégré. Donc, plutôt que de la construire à partir des notes, j'ai tout laissé de côté Et j'ai écrit, donc la première phrase est vraiment la première phrase, « Combien de jours vivons-nous ?» Et là, j'ai fait vraiment pendant des semaines et des semaines, chaque jour, j'ai écrit ce livre comme si je naviguais sur le fleuve, dans le brouillard, et l'histoire s'est construite à un certain moment. Donc, j'ai appris moi-même, un peu par hasard, qu'il y avait eu ce naufrage de l'Empress of Ireland, et mes personnages, c'est des histoires de naufrage, hein, c'est cette mère, Simone, qui perd son fiancé. C'est un naufrage qui arrive très tôt dans la vie. Comment on se reconstruit? Est-ce qu'on peut se reconstruire? Donc, je voulais questionner cette fameuse notion de résilience, parce qu'on en parle beaucoup et on valorise énormément la résilience, mais c'est pas toujours possible. Et comment peut-on vivre quand on n'est pas capable de résilience? Donc, j'ai avancé dans ce roman en voyant les éléments se rencontrer. Et construire dans une chronologie qui n'est pas du tout celle du temps habituel, parce que c'est un peu comme ça, je pense, que fonctionne non seulement la mémoire, mais aussi le récit. Tout récit intérieur et en fait brise la chronologie. Et vous évoquez des recherches. Oui, j'ai fait bien sûr beaucoup de recherches sur ce naufrage de l'Empress of Ireland. Parce que c'est aussi comment des catastrophes brisent des vies, mais pour des générations et des générations. C'est un peu la même chose. L'Empress of Ireland est un naufrage moins connu que le Titanic, vous le disiez, parce qu'il y a eu le déclenchement de la guerre. Donc, on a un peu oublié. C'est un naufrage qui a été assez spectaculaire pour le nombre de victimes, mais le temps, le naufrage, c'est passé. Mais pour moi, c'était surtout de questionner les naufrages de vie. Et comment un peu des éléments narratifs peuvent venir en rebond les uns sur les autres, en fait. Mais il s'est construit, et je ne l'ai pas relu tant que j'écrivais ce livre. Je ne l'ai pas relu, je l'ai relu des mois plus tard, parce qu'en fait, l'aventure d'écriture avait été tellement forte, tellement intense, que même s'il n'avait pas été publiable, ça m'était égal.
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu la question que j'allais vous poser et que je dois décliner parce que la nature de vos œuvres est si protéiforme sur les méthodes de travail. Est-ce que vous pouvez dire que vous en avez une? Parce que là, vous nous faites le récit de cette écriture comme celle d'un naufrage, vous venez de le dire, vous-même, d'une épreuve de navigation en tout cas. Donc vous avez du matériel que vous avez accumulé avant. Toute l'histoire de l'Empress of Ireland, vous l'avez découvert à ce moment-là dans la résidence d'écriture à mesure que vous écriviez?
Juste avant. Donc je savais que j'avais, disons, l'histoire intime et une histoire collective, universelle, qui avait une catastrophe ou un naufrage individuel et quelque chose d'universel. Et ça, c'est des éléments sur lesquels, moi, je travaille beaucoup, de mettre en tension les éléments plus intimes et plus universels, oui. Mais pour moi, en fait, chaque livre, je serais bien embêtée de vous dire, voici ma méthode de travail. Moi, j'écris de telle heure à telle heure, et j'écris avec un ordinateur ou tel stylo ou de telle manière. En fait, pour deux raisons, je pense. La première, c'est que j'aime penser que le processus d'écriture se renouvelle en même temps que moi, je change. Et si je dis j'écris, par exemple, toujours le matin, si un jour j'arrive plus à écrire, je vais dire j'arrive plus à écrire et je penserai même pas écrire à un autre moment de la journée. Peut-être, ça peut arriver. Et l'autre élément, moi, ce que je vis, en tout cas, c'est que chaque livre dicte la manière dont il veut être écrit. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus une question d'écoute que d'expression et de dialogue que de volonté de dire. Et on dit souvent, bon, écrire, c'est s'exprimer. Pour moi, écrire, c'est d'abord et avant tout écouter, me rendre disponible et être à l'écoute. Et aussi à l'écoute physiquement. Est-ce que tel livre est écrit directement à l'ordinateur? Ai-je besoin de notes? Et ça, que ce soit pour les poèmes, les romans ou les essais.
Certains ont besoin de l'ordinateur, d'autres non.
D'autres, ça m'est arrivé, par exemple, un autre roman, L'étreinte des vents, où là, j'avais un délai très précis parce qu'on me donnait un prix pour ce livre-là qui n'était pas encore écrit. Ce qui est assez...
c'est technique comme histoire.
C'est particulier et ça peut être assez difficile de composer avec ça. Et à avec le délai, et dans ma vie, c'était un moment qui était assez difficile pour moi, personnellement. Donc, tout arrivait pour bloquer un peu et faire de ce délai une espèce de catastrophe devant moi. Et je me disais, bien sûr, j'ai absolument pas le temps de faire un mauvais premier jet. Il faut vraiment que le premier jet soit bon, que tout ça. J'aurais même pas le temps de travailler parce que j'écris quand même lentement. Là, j'ai l'air d'écrire rapidement et de publier. Non, moi, je suis quand même, je suis très lente dans l'écriture. Et il y a beaucoup de hasard sur le fait que tel livre soit publié aux 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme ça. Ça, c'est la partie éditoriale, mais ça n'a pas forcément à voir avec l'écriture. Et donc, en fait, pour moi, ce livre-là, j'ai tout mis de côté, l'ordinateur, et je me suis acheté le petit bloc-notes le plus simple, et je me suis dit, je vais écrire jusqu'à temps que ça devienne de l'écriture. Jusqu'à temps que je sente qu'il y a quelque chose qui se passe, un peu comme ce que je racontais tout à l'heure quand moi j'ai lu des poèmes de Jacques Brault et j'ai senti tout à coup que les mots n'étaient plus simplement un corridor pour laisser passer le sens, mais qu'ils étaient une matière qui avait du son, qui avait du rythme, qui avait des symboles, qui étaient chargés d'histoire. Et donc je me suis dit, je vais écrire sur ce petit bloc-notes jusqu'à temps que je sente, voilà, là je commence à écrire. Et là, je passerai à une autre étape. Parce que je pense que c'est important aussi, à un certain moment, de ne pas penser à l'après. J'évoquais pas même le bruit d'un fleuve. J'ai écrit ce livre sans même désirer qu'il soit publié. J'ai voulu que ce soit vraiment une aventure entre l'écriture et moi. Tout livre devrait, en fait, être comme ça. Mais parfois, quand on publie, quand il y a des choses extérieures, on peut être dérangé dans ce lieu, dans ce dialogue. Il y a quelqu'un qui peut s'inviter dans la pièce. Ça peut être des lecteurs, ça peut être un délai. Il faut vider la pièce de tout élément qui n'est pas la nécessité intérieure d'écrire ce livre-là et d'abandonner les fruits. C'est-à-dire que peu importe sa vie après au livre, moi, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce qu'il m'a donné, et chaque livre pour moi, je suis allée assez loin dans ce livre-là, parce que ça m'est arrivé aussi de repousser des délais avec des éditeurs, de dire non, je dois lui donner davantage, et à ce moment-là, il va me donner tout ce qu'il a à me donner, et les délais, les choses extérieures, c'est très important, et c'est très intéressant de le faire aussi, de ne jamais quitter des yeux cette expérience d'écriture, qui est vraiment ce pourquoi on écrit.
C'est fou, vous dites cette phrase, vous dites que ce n'est pas une question d'expression, mais d'écoute, comme si le livre était vraiment des personnes, ou en tout cas des gens avec qui vous dialoguez à ce moment-là, comme si c'était en dehors de vous.
Ou avec moi. Oui, avec moi. Le dialogue, en fait, il est avec le monde, il est avec la littérature, je dialogue avec tous les écrivains, avec les compositeurs, avec des artistes visuels, donc il faut beaucoup écouter pour pouvoir écrire un peu. Et pour moi, cette écoute-là est toujours très très importante. C'est le moment le plus important. Je suis pas quelqu'un qui prend tout le temps des notes. Je fais vraiment confiance. Il y a une espèce de tamis peut-être intérieur qui fait que donc je suis pas toujours en train de noter. Ah tiens, telle image ou tel passage, telle phrase, tel vers. Non, j'aime mieux me dire que ce qui doit rester va rester.
Ce qui doit rester va rester dans pas même le bruit d'un fleuve. Ensuite, on va parler de poésie, parce que j'imagine que c'est autre chose. À la fin du roman, vous rendez à plein de César ce qui est à César, c'est-à-dire que chacun des chapitres assez courts de ce roman a un titre, et chacun de ces titres est une citation. À la fin du roman, vous faites la liste des citations et des ouvrages desquels ces citations sont issues, et vous parlez des pièces musicales qui ont accompagné l'écriture, les relectures de votre roman. Beaucoup de musique, vous êtes très généreuse, beaucoup de musique répétitive, Max Richter, Nils Fram, beaucoup de musique aussi du Nord, de musique islandaise. Quel rôle a la musique dans votre pratique de l'écriture? On a une question aussi, on demande souvent aux gens pourquoi ils ont choisi cet art et pas un autre. On a bien compris que chez vous, c'est une rencontre avec ce lieu. Mais il y a la musique et il y a évidemment la notion de paysage qui est très forte. Vous avez aussi un site internet, Hélène Dorion, où vous publiez des photos que vous prenez. Quel est le rôle justement et du paysage et de la musique quand vous écrivez?
Alors, la musique, Je pense que j'ai rapidement été sensible à la musique des mots, à la voix des mots. Ils ont une voix propre, ils ont des sonorités, des rythmes. Et moi, j'écris avec des mots assez simples. Pour moi, il s'agit de revisiter les mots de tous les jours, les mots qu'on connaît, un peu comme dans la vie, il me semble important de revisiter les lieux qu'on connaît. On évoquait la répétition. Souvent, on passe par les mêmes lieux et on ne les voit plus. Je pense que si la littérature et la poésie en particulier a une tâche, c'est bien celle de nous rendre à notre propre présence. Donc, de nous rendre présents, d'être là, totalement là. Et donc, ce qu'on ignore de ce qu'on voit constamment ou de ce qu'on entend constamment, c'est la littérature qui nous le redonne. Donc, cette musique, et c'est vrai que j'ai appris très tôt la musique, en fait, la musique m'a intéressée bien avant la littérature. J'aurais beaucoup aimé apprendre le piano. C'était pas possible. Donc, j'ai appris la flûte à bec, qui était un pis-aller. Mais je me souviens, par exemple, à l'école où j'allais, il y avait des cours de piano. Et le midi, donc après le déjeuner, j'allais à l'étage où se donnaient les cours de piano. Et je restais dans ce corridor pour entendre, pour écouter, en fait, les cours de piano. J'aimais entendre pianoter et j'essayais d'attraper certains cours, certaines notions. Ma mère avait très longtemps était donc pianiste et peut-être que c'est, sans le savoir, quelque chose qui rebondissait à l'intérieur de moi, mais j'étais très tôt sensible à la musique. Quant au paysage, là aussi, je pense que ça vient de l'enfance, hein, je ne vous apprends rien, on a notre enfance comme ce terreau extraordinaire d'écueils et d'émerveillements. Et on habitait à Québec, je suis née à Québec, donc près du fleuve, vous le mentionniez. Et il y avait aussi les montagnes qui étaient très proches, donc on faisait du ski en montagne. Et rapidement, en haut d'une montagne qui s'appelle le Mont-Sainte-Anne, mon père était un grand skieur, donc il nous amenait. J'ai commencé à skier, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans à peine. Et en haut de la montagne, on voyait le fleuve. Donc j'ai rencontré l'horizon très tôt. Et un très bel horizon. Et j'ai été rapidement émerveillée. Mon père aimait beaucoup la nature. On écoutait des émissions ensemble sur la nature. J'étais fascinée. Et bien sûr, c'est mon lien à mon père passait aussi par la nature. Il m'a appris à voir et j'ai appris surtout à aimer ces horizons. Et le fleuve, on le sait, au Québec, et à Québec en particulier, le fleuve, c'est magnifique. On allait à l'île d'Orléans, on passait. Donc, ce lien a été vraiment très fort, très tôt. Et ça a rebondi rapidement dans mon écriture. Oui, c'était là.
Comment est-ce que vous écoutez de la musique? C'est-à-dire, vous écoutez de la musique concrètement en même temps que vous écrivez? Autour, à côté?
Je vous dirais la même chose, c'est jamais pareil. Chaque livre dicte sa manière d'être écrit, c'est-à-dire est-ce que à un certain moment je vais écouter de la musique, mais j'écoute pas toujours de la musique en écrivant parce que sinon j'entendrais pas tout à fait la musique des mots. Et c'est une musique particulière, vous l'avez dit. Il y a de la musique répétitive, c'est une musique parfois, j'allais dire, intérieure. Par exemple, j'ai terminé pas même Le bruit d'un fleuve avec la musique de Max Richter qui commence la liste musicale. Et c'est à ce moment-là, je vais l'écouter en boucle. Comme si cette musique finissait par simplement habiter le paysage, habiter le lieu où j'écris. Donc, c'est pas que la musique dicte un rythme à l'écriture, je n'écris pas avec la musique. Elle crée un lieu qui donne une tonalité. C'est un peu comme un exergue, en fait. C'est un peu la même fonction. Et vous évoquez les titres des chapitres. Oui, là, c'est les lectures, c'est de prendre un bout de phrase ou un vers, pas même Le bruit d'un fleuve, c'est extrait d'un poème d'Yves Bonnefoy. Donc, c'est de le prendre un peu comme on fait quand on va en librairie, on ouvre un livre et il y a une phrase ou un vers qui tout à coup nous frappe, nous rencontre. Et c'est comme ça qu'on rencontre les mots très souvent, parce que ça rencontre notre expérience, ça nomme, ça fait un choc, ça crée une percée lumineuse à l'intérieur de nous pour dire ce qu'on ressent. Et c'est un peu ce que j'ai voulu avec ces titres de chapitres, créer des percées ou dessiner des horizons, mais sans être trop précis. Souvent, un titre de chapitre, ça va te dire précisément, mais moi, j'ai voulu peut-être, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu cette fonction du titre et qu'on trouve simplement peut-être comme une tonalité. Voilà, ce chapitre sera en la mineur.
C'est drôle que vous parliez d'accord, parce qu'il y a évidemment cette notion-là Là, vous venez d'utiliser le terme corridor en décrivant ce que vous faisiez en allant écouter le piano. Il y a le mot corridor, par exemple, est présent dans un titre d'un de vos recueils. Et ces titres-là, ces mots, la grotte, la faille, sont des mots sur lesquels vous revenez et vous parlez de tout ça. Parlons de Mes forêts, qui est un recueil de poèmes, puisque là, on vient de passer du temps à se plonger avec vous dans cette manière. Vous avez navigué, écrit quasiment toute seule, donc sans le paysage dont vous parliez pour ce roman. Mes forêts, par exemple, est venu de quoi, sur combien de temps, et à quel point étiez-vous ou pas dans des forêts, ou au contact de la forêt quand vous l'avez écrit?
Alors, vous évoquiez le début de Pas même le bruit d'un fleuve, où il y a l'image d'un arbre. En fait, j'étais justement dans cette forêt extraordinaire de l'Ouest canadien. Et j'écrivais sur le fleuve, mais j'étais tellement dans une forêt magnifique là-bas que j'ai commencé à écrire les poèmes de Mes forêts alors que j'avançais sur le roman. Donc la première partie, L'écorce incertaine, pas toute la première partie, mais les premiers poèmes se sont écrits en même temps que Pas même le bruit d'un fleuve. Et ensuite, je suis rentrée donc chez moi. Pas même le bruit d'un fleuve allait paraître en mars 2020. J'avais tout un planning de rencontres, etc. Et bon, on le sait, 10 ou 12 mars 2020, nous avons été confinés. Donc, je suis rentrée dans ma forêt à Offord. Et j'ai été avec ces êtres vivants, peut-être les plus confinés de tous, les arbres. Et j'ai un petit pavillon construit à quelques mètres de la maison qui surplombe la falaise, qui est vraiment donc dans la forêt. Et j'avais ces premiers poèmes qui étaient là. Et là, le monde s'arrêtait. Donc, nous posait des questions. Notre manière de vivre, notre manière d'être, le lien à la nature, la technologie, toutes ces questions surgissaient alors que j'avais ces premiers poèmes. Donc, j'ai voulu, et j'habitais longtemps dans les Laurentides, qui est une forêt de conifères, là maintenant, en Estrie, forêt de feuillus. Et donc, moi, je me dis, ça fait quand même quelques dizaines d'années que j'habite en forêt, je dois quand même connaître ça un petit peu. Mais j'ai eu envie, encore une fois, de revisiter ce que je croyais connaître. Alors, en regardant au plus près, la première partie s'appelle « L'écorce incertaine », donc j'ai eu envie de revisiter l'écorce, l'humus, la feuille, le bourgeon, d'aller voir au plus près qu'est-ce que c'est véritablement la nature. Et c'est ce que permet le poème. Le poème est comme un précipité de langage et de réalité au fond d'une éprouvette ou au fond de nous comme êtres humains. Et tout à coup, ça nous dit ce qu'on ignorait d'une réalité parfois banale, mais ça nous la révèle de nouveau et ça nous émerveille de rencontrer une nouvelle fois. Donc là, les autres questions sont arrivées. Dans quel monde vivons-nous? Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde-là? Et les parties se sont succédées. Donc, l'onde du chaos, le bruissement du temps, parce qu'en fait, dans la dernière partie, le bruissement du temps, il s'agissait pour moi de retourner sur nos pas en même temps comme espèce humaine. Qu'est-ce qu'on a raté hein? Quand on chute dans nos vies personnelles? On retourne derrière et on se dit, où est-ce que j'ai manqué quelque chose? Et pour moi, il est important de se poser la question de manière plus large, plus universelle. Donc, je suis retournée un peu sur les pas de la construction de ce monde actuel.
Mais alors ça, très concrètement, ça veut dire, quand vous dites que vous allez à la recherche de ce que vous croyez connaître, ça veut dire concrètement que vous vous baladez, que vous vous baladez calepin à la main, que vous rentrez et vous écrivez. Comment ça se construit? Et une question fatidique, est-ce que vous écrivez la poésie ou est-ce que vous la dites à voix haute?
Alors, disons, physiquement, ça dépend. Moi, j'écris plutôt immobile parce que j'ai l'impression que ce surgissement et cette écoute se fait alors que moi, je suis juste là, disponible. Et qui, apparemment, il se passe rien, hein. Écrire, c'est, on est là et apparemment, il y a rien. Un mot, un vers, un poème. Mais c'est un foisonnement extraordinaire à l'intérieur. Et c'est toujours des chemins, sur quel chemin je vais, quel mot, quel passage. Donc, c'est une aventure avec les mots, qui m'émerveille à chaque fois. Je peux aller me promener, bien sûr, mais ça va être de l'ordre à ce moment-là de la contemplation. Ça sera pas pour écrire. Il y a pas forcément des textes qui vont venir. Je fais plutôt parce que j'écris aussi avec le silence. Le silence est quand même une partie essentielle de l'écriture. On a l'impression de sculpter le silence, mais on dialogue beaucoup avec le silence quand on écrit. Donc, il est très important. On parlait de musique, mais le silence est aussi un espace plein. Et donc, pour moi, c'est plutôt immobile. Et maintenant, comment j'écris, ça peut être encore là à l'ordinateur, ça peut être en prenant des notes, mais j'écris pas à l'oral.
À voix haute.
Non, j'écris pas à voix haute. Je vais toujours lire mes textes par la suite à voix haute. Parce que pour moi, c'est vraiment, et là, on revient à la musique, c'est une manière de valider un rythme, des sonorités, mais j'ai déjà l'impression de les entendre en écrivant, parce qu'on n'écrit jamais vraiment silencieusement, on entend les mots qu'on écrit. Et c'est la même chose pour mes romans. Mes romans, je les lis aussi à voix haute et je vais sentir si une phrase, il y a un mot de trop ou un mot qui manque ou une sonorité qui est pas tout à fait juste. Donc c'est vraiment comme peut-être comme on compose une musique. Je sais pas parce que je suis pas compositrice, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de très musical et de très architectural en même temps. Parce que autant un poème qu'un roman, c'est une structure. On dit parfois recueil de poèmes. Moi, j'ai toujours un peu de réticence avec ce mot parce qu'on pense qu'on, quand on a un certain nombre de poèmes, on met ça ensemble, on met ça dans une enveloppe, on envoie ça à un éditeur, ça fait un recueil de poèmes. Non, moi, il y a vraiment un début, il y a un développement et mes fins de livres de poèmes, c'est vraiment des fins. Je les écris pour qu'ils soient à la fois des chutes et des ouvertures, exactement comme mes romans et comme mes essais aussi. Donc, c'est une structure narrative parce que je raconte aussi quelque chose à travers la poésie. La poésie raconte, c'est aussi un récit. C'est pas qu'en aplat, il y a un mouvement narratif dans un livre de poèmes et pour moi, ils sont construits comme des romans aussi. Bien sûr, on peut lire un poème et il va être autonome. C'est le jeu un peu du livre de poèmes. C'est-à-dire qu'un seul poème a un début, un développement et là, une chute. Mais une section va former une structure et le livre entier aussi.
Ça, c'est fou. Cette écologie, en fait, du recueil, si on garde ce mot dans le poème, et cette écologie de l'œuvre en entier, on la sent très puissamment dans votre œuvre à vous. Hélène Dorion, quand est-ce que vous savez que c'est terminé et que c'est bon pour vous?
Ouf! Oui, ça, c'est une question toujours difficile. Et la réponse la plus simple, mais qui n'y répond pas, c'est je le sais, je le sens. Voilà, c'est terminé. Mais je vous dirais en même temps, j'ai l'impression que le dialogue est allé au bout. C'est-à-dire que le livre m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner et que je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner. Et que le chemin va se poursuivre dans un autre livre, qui va pas forcément s'amorcer le lendemain, mais que je suis allée aussi loin que je pouvais sur le chemin avec ce livre-là. C'est terminé.
Aujourd'hui, vous déjà très jeune, hein, même vous aviez à peine 40 ans, que déjà des recueils ou des anthologies de vos poésies paraissaient au Québec. Ici aussi, vous avez donc ce recueil « Un visage appuyé contre le monde » qui a vraiment une logique propre, qui est paru en 1990 au Canada et qu'on découvre en France depuis 2024.
Juste pour préciser, il était paru aussi aux éditions Le Dé Bleu en 90, en coédition, justement. Oui.
Mais il était épuisé.
Ah oui, depuis longtemps.
Est-ce que vous êtes tentée parfois de modifier ce que vous avez écrit?
Ah oui, ça c'est effectivement quand on republie des livres, la question se pose. Et c'est la première fois que je me la suis posée, c'est justement pour une anthologie en 2006 qui reprenait plusieurs de mes livres qui a été publié uniquement au Québec. Et à ce moment-là, disons, je suis entrée dans la relecture de mes livres en me disant, bon, s'il y a des choses à retoucher. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que si je commençais à retravailler, là, je redessinais tout. Parce que j'avais changé, parce que mon écriture avait changé, parce que tout était différent. Et j'ai fait le pari de ne rien retoucher parce que on ne peut pas retoucher le passé. Et si, par exemple, je veux retourner dans mon passé et retoucher tel élément ou tel geste ou telle situation dans laquelle je trouve que j'ai pas fait tout à fait ce qu'il fallait, c'est impossible. C'est la même chose. Je pense qu'on a besoin de tout ce qu'on a été pour être ce que l'on est et pour devenir ce que l'on peut devenir. Et pour moi, dans la mesure où le livre avait sa cohérence, sa pertinence, les retouches ont été assez minimes. Par exemple, ce livre-là qui vient de paraître chez Gallimard, ça a été parfois de l'ordre d'un seul mot ou d'une ponctuation. Quand on écrit, on peut avoir besoin d'un métronome. À certains moments, j'avais l'usage d'une ponctuation dont le texte n'a plus forcément besoin maintenant. Et maintenant, des années plus tard, je peux le voir.
Qu'est-ce que peut la littérature, ou en tout cas, est-ce que vous avez la sensation d'avoir progressé, si ce n'est dans votre art, au moins dans votre pratique de la vie humaine, peut-être?
Quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai tout demandé à la littérature. Qu'elle m'apprenne à vivre, à devenir un meilleur être humain, à aimer, à augmenter ma capacité d'aimer, à mieux me lier à moi-même, aux autres, au monde, à connaître. Et maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, que la transformation est en cours, qu'elle a commencé avec l'écriture et qu'elle continue. Je ne parlerai pas en termes de progrès, c'est très difficile. Moi, je parle en termes de mouvement. D'être en mouvement, c'est d'être vivante. Et être vivante dans l'écriture et dans ma propre vie, c'est ce que je demande à l'écriture, à la littérature et aussi par la lecture. Et ça, ça se passe, c'est là. Donc, tant que ce mouvement est là, pour moi, il y a une sorte d'avancée. Mais l'avancée, ça peut être derrière soi, ça peut être de côté. Tous les mouvements sont nécessaires pour devenir, parce que c'est le devenir qui importe. C'est d'aller vers ce qu'on ignore, en fait.
Ça, c'est votre éthique. Il n'y a pas de résolution dans votre œuvre, dans votre poésie. Il y a plutôt une éthique. On l'a entendu, vous avez reçu de très nombreux prix au Canada, mais vous avez cette grande rencontre maintenant avec des jeunes lycéens, puisque vous êtes au programme et c'est assez durable. Qu'est-ce que le regard des lecteurs et des lectrices vous a apporté, vous apporte peut-être? Qu'est-ce que ça éclaire chez vous et est-ce que ça produit du désir d'écriture?
Je dirais que c'est un événement qui a été et qui est encore assez extraordinaire pour moi. D'abord parce que je ne m'y attendais absolument pas. Il n'y a pas de... Les livres ne sont pas envoyés. Tout à coup, moi, je l'ai appris le jour où c'était officiel, où il y a eu une signature ministérielle. Donc, je l'ai su. Et je ne prenais pas à ce moment-là la juste mesure de ce que c'était, parce que le baccalauréat, chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand je suis venue la première fois après l'annonce du baccalauréat, ici en France, je l'ai vu dans le regard des gens, dans les rencontres médiatiques que j'ai faites. Là, j'ai vu ce que ça représentait, ce rituel séculaire et que les gens, à toute période de leur vie, se souviennent. Quand j'ai passé mon bac, ils se souviennent parfois de la salle, on me raconte des choses comme ça. Donc, pour moi, ça a été aussi d'avoir l'opportunité de rencontrer ce jeune lectorat absolument extraordinaire, hein, parce qu'il faut le dire, ce sont des jeunes éveillés qui plongent dans un texte avec leurs propres questions, leurs propres expériences et les retours que j'ai. Bon, il faut dire, les professeurs ont le choix aussi entre...
Vous et d'autres.
C'est ça, Rimbaud, Ponge et moi. Et je pense que les professeurs...
C'est pas mal.
Oui, c'est... Mais je le souligne parce que pour moi, c'est vraiment ces trois propositions différentes et surtout la mienne, bien sûr. Là, on n'est pas assez côte à côte. Mais j'allais dire, les professeurs qui choisissent mes forêts entrent aussi dans ce dialogue, j'allais dire, d'incertitude et de nouveauté avec leurs élèves parce qu'il n'y a pas tout cet appareillage critique autour de mon livre. En tout cas, là, c'est sûr qu'il y a des livres qui se sont écrits. Il y en a depuis qui s'écrivent. Ça, c'est bon. Mais au début, en tout cas, il y avait peu de choses. Donc, il y a eu cette manière de faire en sorte que une poésie contemporaine, et c'est ça, je pense, qui est aussi intéressant, avec des questions contemporaines de lien à la nature, d'écologie, la technologie. J'ai vu que ces questions interpellaient ce lectorat et que dans leur propre expérience, je reçois leur expérience. Et pour moi, c'est comme si, sans avoir voulu m'adresser à eux directement, parce que ce livre n'a pas été écrit pour eux, mais il est devenu aussi le leur. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que les questions d'écologie, on est assaillis de statistiques, de chiffres et on a l'impression de devenir un peu insensible à tout ça. Et il faut dire que c'est cette génération-là à qui nos questions d'urgence appartiennent. Et quand je les vois s'en emparer et faire en sorte que la poésie puisse entrer dans leur vie, parce qu'il y en a qui découvrent aussi la poésie contemporaine, donc une poésie tout à fait différente de ce qu'ils ont pensé que ça pouvait être, bien sûr. Ils en écrivent, ils en lisent, ils lisent mes poèmes, donc ils l'intègrent complètement. Et ça, je trouve ça, moi je suis émerveillée, parce que je me dis, ben, si ce livre-là a été écrit pour qu'il puisse faire en sorte que, en tout cas à partir de cette génération, on retrouve un certain contact avec notre être poétique à travers la poésie et que ça nous rappelle qu'on n'est pas que des êtres économiques, comme le monde actuel et très, très actuel essaie de nous le faire croire. Donc, il y a cet espoir-là qui est là. Et quand je les rencontre, c'est ce que je vois, des percées lumineuses pour un avenir aussi. Donc, je me sens choyée.
Je pose une dernière question. Justement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut écrire, pas nécessairement de manière professionnelle, quelqu'un qui veut écrire en cherchant peut-être la même chose que vous cherchiez tout au début?
D'abord, je pense qu'il faut aimer les questions. Il faut aimer les questions sans réponse. Et je dirais d'apprivoiser l'inconfort. Parce que très souvent, on n'aime pas trop les brouillards, on n'aime pas trop l'inconfort, on cherche des certitudes, on veut des réponses, on veut être bien stable. Et je pense que la littérature a ceci d'extraordinaire, qu'elle correspond tout à fait à la vie, avec ses incertitudes, avec ses questions sans réponse, avec ses mouvements d'ombre et de lumière, avec ses tensions entre des extrêmes qu'elle arrive à réconcilier. Donc, pour moi, ce serait intérieurement une sorte de manière d'être au monde. Et ensuite, plus, disons, de manière concrète aussi, de lire, bien sûr. On ne peut pas s'emparer de matériaux sans savoir ce que les autres ont fait avec. Donc, on ne peut pas s'emparer des mots sans savoir ce que, dans le passé, Rimbaud et plus récemment Ponge, Michaud et encore plus récemment d'autres poètes et d'autres écrivains, Joyce, peu importe, Virginia Woolf, Marie-Claire Blais au Québec. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette matière que sont les mots? Et donc, lire en dehors parfois de nos propres goûts, mais simplement pour connaître ce matériau qui est le nôtre quand on écrit.
Merci beaucoup, Hélène Dorion. Merci d'avoir été, de vous être livrée à ce jeu merveilleux de la masterclass.
Merci, merci beaucoup. Merci.
C'était la masterclass d'Hélène Dorion avec Zoé Sfez, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Coordination Henri Leblanc, attaché de production Céline Leclerc, coordination technique Francesca Fossati, prise de son Christian Lahondès et Alexandre Martin, réalisation Perret Legras.